Le L Québec présente la mini-série Corps à corps en collaboration avec la Clinique K. Nos animatrices et invitées plongent tête première dans l'univers de la chirurgie esthétique pour en défaire les tabous et préjugés. Cette semaine, on passe la rhinoplastie sous le bistouri en compagnie d'Héloïse Larocque, Théo Dupuis-Carbonneau et du Dr Carl Schwartz.
Bonjour, je m'appelle Théo Dupuis-Carbonneau, je suis chef de contenu beauté au L Québec et au L Canada et j'ai le bonheur d'être en compagnie du Dr Carl Schwartz, qui est fondateur et chirurgien esthétique à la Clinique K, et de Héloïse Larocque, qui est coiffeuse et coloriste au studio Apart à Montréal. On est ensemble aujourd'hui pour parler de rhinoplastie. Ça fait partie du top 5 des interventions esthétiques à travers le monde entier. L'International Society of Aesthetic Plastic Surgery estime que près d'un million de rhinoplasties ont été réalisées aux États-Unis en 2021. Héloïse, t'as toi-même vécu une rhinoplastie en 2017 oui. avec une autre que Dr. Schwartz. C'est quoi? Quel beau hasard!
Quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais c'est incroyable. C'est meant to be ce podcast.
Absolument.
Ce balado, pardon.
Puis t'es là ici pour nous parler de ton expérience avec ta propre rhinoplastie. Puis on va pouvoir aussi compter sur les bons conseils de Dr. Schwartz pour comprendre c'est quoi une rhinoplastie, puis surtout savoir ce qu'il faut faire si on souhaite aller de l'avant avec cette intervention-là. Donc, première chose, c'est quoi exactement une rhinoplastie, monsieur Dr. Schwartz?
Rhinoplastie, c'est un terme qu'on utilise juste pour décrire n'importe quelle chirurgie pour changer la forme du nez. Vraiment, c'est un terme esthétique, mais c'est pas, ça inclut pas juste le côté esthétique. Ça inclut aussi souvent des procédures pour mieux respirer. Alors, esthétiquement, que ce soit une petite bosse qu'on veut limer ou raffiner le bout du nez, remonter le bout du nez, le raccourcir ou juste un raffinement global, c'est le terme rhinoplastie qu'on utilise pour ça.
Parfait. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont de meilleurs candidats à une rhinoplastie? S'il y a une bosse sur le nez, une largeur du nez, une déviation du septum?
Oui, alors, vraiment, premièrement, il faut être en santé parce que pour toute chirurgie esthétique, il faut être en bonne santé. Mais les patientes qui sont vraiment bonnes candidates, c'est les patientes qui ont des attentes réalistes. Alors, qui ne veulent pas simplement d'avoir un nez d'un autre. Par exemple, souvent, il y a des patients qui me disent je veux un nez de Kim Kardashian. Puis vraiment, c'est impossible. Je ne peux pas vous donner un nez d'autres personnes.
Non.
Mais vraiment, des personnes qui ont des attentes réalistes. Puis la raison la plus commune en termes de rhinoplastie, c'est la bosse. C'est qu'ils ont un profil, ils vont voir une petite bosse, un bout du nez qui pend, puis ils veulent limer la bosse, remonter le bout du nez, puis avoir un nez juste un petit peu plus raffiné.
OK, parfait. Toi, Héloïse, peux-tu me parler un peu de la relation que tu entretenais avec ton nez avant d'aller de l'avant avec une rhinoplastie?
Avec plaisir. En fait, j'ai toujours eu un petit nez.
Okay.
Puis, ben là, corrige-moi si je me trompe. Je peux t'appeler Carl? Hein?
Oui, bien sûr. C'est mon nom.
C'est mon nom. Non, donc, j'ai toujours un petit nez enfant. Puis, à l'adolescence, genre vers 14 ans, il y a eu comme... J'ai l'impression du cartilage qui a comme poussé, on dirait. Du jour au lendemain, genre pour vrai, j'ai vu... C'est ça, la puberté, mon nez a vraiment changé du tout au tout. Et là, c'est devenu vraiment un complexe. Vraiment, vraiment. Tu sais, on m'en parlait à l'école. Je vis un petit peu d'intimidation par rapport à ça. Rien de majeur, là, mais assez pour me déranger puis pas être 100% bien dans ma peau puis dans mon corps, tu sais. Et je l'ai rapidement nommé à mes parents à cet âge-là. J'ai dit que j'aimais pas mon nez puis que ça me rendait mal, que je voulais pas aller à l'école à cause de mon nez. Puis, mes parents ont été super fins. Ils ont vite voulu trouver des solutions pour que je me sente mieux puis tout ça. Puis, la seule condition était que j'attende ma puberté complète, là, évidemment, avant de faire l'intervention. Donc, c'était... Le deal était à mes 21 ans.
OK.
Et puis, en même temps, ça me permettait aussi d'apprivoiser le changement de mon corps.
Oui.
Puis, comme, je pense que c'est important pour une jeune fille de comprendre que notre corps change tellement. Puis, c'est quand même... Ça peut être traumatisant, tu sais. Fait que je pense que ça faisait partie de tout ça. Puis, c'était comme si, à 21 ans, tu l'aimes encore pas, ben là, tu sais... On va t'aider, puis ça...
De pouvoir faire un choix, dans le fond, éclairé.
Oui, puis d'y avoir vraiment réfléchi comme il faut, parce que ça reste au centre du visage, ça reste quand même... C'est quand même une partie de corps qui donne de la personnalité, tu sais, c'est quand même important. Puis j'ai été vraiment chanceuse d'être bien entourée là, par ma famille puis mes amis dans cette intervention-là.
Comment tu t'es informée sur le sujet? Est-ce que tu connaissais des gens qui avaient vécu une rhinoplastie avant?
Ben moi, je viens des cantons de l'Est, là. Fait que je veux dire, s'il y a des interventions de fait, on le sait pas, là. Ou genre,
c'est pas dit.
C'est pas... Non, puis tu sais, on remonte en 2010, mettons, là. Puis je veux dire, j'étais au secondaire, fait que personne de mon entourage avait eu des chirurgies, vraiment, là. Puis c'était pas comme c'est aujourd'hui, je pense. Mais je pense que vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à en parler, à regarder sur YouTube des vidéos de filles qui le faisaient, puis qui comme documentaient tout le processus. Et genre tellement que j'avais pas peur du tout de l'intervention. Tu sais, j'étais comme vraiment prête, je savais les étapes. Puis c'était tellement un gros complexe que moi, j'étais prête à tout, là, tu sais, pour le changer.
Je comprends.
Ouais, fait que mais j'avais pas tellement de références proches de moi qui l'avaient fait, à part une cliente, à un moment donné, à Bromont,
ouais,
qui était jeune comme moi, qui, elle, sa mère, elle, c'est vraiment aussi un complexe, puis sa mère, elle l'avait autorisée plus jeune, genre à faire la chirurgie, puis était comme, on est allé à Montréal.
Ah ouais,
dans la grande ville. C'était la seule info que j'avais. Puis j'étais comme, OK, parfait, puis là, c'est ça.
Puis comment ton choix s'est arrêté sur Dr. Schwartz?
En fait, je pense que à cette époque-là, j'avais des amis ou des connaissances qui avaient eu recours à tes services, dans le fond. Et je sais pas si on appelle ça des services.
Oui.
C'est comme ça qu'on appelle.
À son expertise.
Oui. À son expertise.
À son talent.
Oui, exact. Puis j'aimais vraiment le résultat. Je trouvais que c'était super naturel. Moi, c'était... Étant donné que c'était comme vraiment un complexe, j'avais pas l'intention d'avoir le nez de tout le monde. Mm-hmm. Même si je connaissais pas ça quand on a fait la consultation, j'étais arrivée avec des photos, ce qu'il faut jamais faire. Puis j'ai vraiment aimé ta réponse. Tu sais, tu m'avais dit... ça sert à rien que tu montes des photos parce que je travaille avec ce qu'on a sous la main, tu sais. Puis je pense que c'est avec cette réponse-là que j'ai fait comme, OK, c'est la bonne personne pour moi, parce que je sais que le nez que je vais avoir, il va être fait pour moi, puis qu'il va bien m'aller, puis que, tu sais, fait que c'était vraiment important pour moi, ça. Donc, je pense que c'est ça, j'avais entendu parler de Carl, puis j'avais été voir sur Instagram, puis là, j'avais vu que sa spécialité, c'était... les nez et l'augmentation de ma mère, je pense.
Oui.
Voilà.
Génial. À quoi ça ressemble, Dr. Schwartz, une consultation en rhinoplastie, une première visite, disons?
Alors, quand on arrive à la clinique, il y a premièrement un formulaire qu'il faut remplir, juste pour avoir une idée de la santé de la patiente. Mais la consulte, ça commence avec l'infirmière.
Mm-hmm.
C'est comme la pré-consulte avant de me voir à moi. Puis, pendant cette partie de la consulte, c'est la patiente qui commence à dire c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leur résultat idéal, puis la raison pour la consulte vraiment, les changements qu'elle veut dans son nez. Après ça, une fois que l'infirmière a une bonne idée des petits changements qu'elle veut, ils vont parler un petit peu de la récupération, parce qu'il y a des choses vraiment spécifiques qu'il faut faire, qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer pour la chirurgie aussi?
Avant jour J, là.
Exactement. Ouais. Et puis, toutes les petites questions plus pré- puis post-opératoire.
Mm-hmm.
Puis une fois que la patiente est bien informée par rapport au pré- puis le post, c'est le temps de me voir à moi pour la consulte. Puis pour moi, la partie la plus importante de la consulte, c'est d'essayer vraiment déterminer exactement ce que la patiente veut. Mm. Puis c'est pas facile, parce que souvent, la patiente n'est pas capable de verbaliser exactement ce qu'elle veut.
Ça doit être dur aussi d'avoir les bons termes, d'avoir le bon langage pour communiquer ses désirs.
Oui, alors c'est beaucoup de temps ensemble en face au miroir.
Ouais.
Puis après ça, d'utiliser un système que j'ai qui s'appelle le Vectra, c'est une caméra 3D.
OK.
Où
c'est
je suis capable de simuler un peu ça peut leur à quoi.
Donc, on voit notre visage, à quoi ça ressemblerait post-opération.
Exactement. Même c'est moi qui fais les changements basés sur les attentes de la patiente.
OK.
Puis ce que je pense que c'est possible dans la salle d'opération. Parce que c'est une version de Facetune. Je peux faire n'importe quoi, mais j'essaie de montrer quelque chose de réaliste. Mm-hmm. Puis que je suis capable de reproduire dans la salle d'opération. C'est vraiment la partie la plus importante de la consulte, de savoir exactement ce que la patiente a en tête.
Puis de comprendre aussi c'est quoi les limites, là, disons, avec les traits qui sont déjà là, j'imagine. Ça va être difficile des fois de donner ces limites-là à quelqu'un, mais en même temps de lui montrer qu'est-ce qui est possible pour de vrai.
Oui, exactement. Il y a la peau. Ça peut être plus épaisse, plus mince. Il y a les os, le cartilage. Alors vraiment, ça peut être... c'est ce qui détermine souvent le résultat final. Est-ce que c'est plus fin, plus raffiné, un petit peu moins? Faut déterminer la technique qu'il faut utiliser pour donner le résultat à la patiente. Puis ça peut être la technique ouverte, parce qu'il y en a deux techniques.
Ouverte. Dites-moi tout.
Il y a la technique ouverte,
ouais,
où il y a des incisions internes dans les narines, puis une petite incision à travers la petite peau entre les narines, le columelle. Puis on ouvre le bout du nez comme ça.
OK.
On peut des fois mieux voir l'anatomie, les cartilages, les os mieux, mais c'est plus dans les patients où ils ont un bout du nez qui pend beaucoup, il faut mettre un petit greffe de cartilage pour le repousser puis le tenir en place. Souvent, une patiente est bonne candidate pour la technique fermée. Alors, la différence dans une technique fermée, c'est qu'il y a juste des incisions internes. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cicatrice externe. Puis souvent, on peut atteindre un bon résultat avec la technique fermée, mais ça dépend des attentes de la patiente, puis aussi leur anatomie, puis ce qui est possible.
Toi, t'as-tu fermé?
Oui, fermé. Puis pourtant, j'avais vraiment un nez ultra aquilin. Donc,
avec la
proéminent.
Bosse.
Ouais. Je pourrais t'envoyer des photos, là, si
ouais,
tu veux
moi,
les
acheter. Je suis super curieuse, ouais.
Mais même pour l'exercice d'aujourd'hui, là.
Ouais.
Puis, donc, de par la bosse, moi, au début, je voulais juste modifier la bosse parce que c'était ça qui était dérangeant. Mais après la consultation, j'ai vite compris qu'il allait avoir un excès de peau.
Donc, une fois le cartilage retiré ou limé.
Exact.
Ouais.
Donc, il a fallu toucher le bout aussi, mais on n'a pas eu besoin de faire la technique ouverte.
Non. OK. Non. À quoi ça ressemble la convalescence après une rhinoplastie? Je ne sais pas si tu peux me parler de ton expérience à toi.
Oui.
Comment c'était?
Mon Dieu. On dirait que j'étais tellement prête. Je pense vraiment que... je pense quand même que c'est quand même une bonne intervention. Là. C'est sûr que je pense que j'avais pris 2 semaines de congé du travail, juste pour être sûre. Après, je ne me souviens plus exactement combien c'est suggéré de prendre. Ça doit dépendre des cas, mais je m'étais tellement attendue au pire que ça a vraiment bien été. Puis j'ai comme pas eu de douleur. Puis j'ai eu vraiment un bon rétablissement. Vraiment, là, il y a rien qui est allé comme pas prévu. Ou, tu sais, j'ai bien cicatrisé, ça a bien été, même nos suivis. Je pense que le moment le plus inconfortable, c'est quand il y a les tampons dans les narines, puis là, tu peux pas respirer par le nez.
Ça, c'est vraiment après l'opération, vous les mettez?
Oui, okay, oui, exactement. Alors, pour une période de 2 à 4 jours, il y a des petits bouchons, des petites éponges dans les narines. Alors, il faut respirer par la bouche. Alors, c'est comme avoir un rhume vraiment, vraiment comme...
Comme j'ai en ce moment. Oui.
Non, mais intense. Là.
Okay.
Oui, genre qu'il y a de l'air qui passe juste pour dire que nos oreilles ne bougent pas, mettons.
Ouais.
Mais c'est vraiment... Ouais. Tu ne peux pas respirer. Là.
Oui, il faut respirer par la bouche.
OK.
Oui. Alors, c'est la... C'est je dirais que c'est la plainte la plus commune, c'est que je ne peux pas respirer par le nez. C'est, comme vous avez dit, ce n'est pas une opération qui est particulièrement douloureuse.
Je le ferai demain matin.
On donne des antidouleurs, mais c'est plus l'enflure, les bleus.
Ça fait peur.
Le fait qu'on ne peut pas respirer par le nez, c'est plus disgracieux que douloureux.
Ah, je comprends.
Puis l'enflure, puis les bleus, ça dure... Les bouchons, on les enlève 2-3 jours après.
OK.
Mais l'enflure, puis les bleus visibles, ça peut durer jusqu'à 2 semaines. Alors, ce que je recommande aux patients qui veulent que ça soit quelque chose de privé, c'est qu'ils se cachent pour 2 semaines.
Ouais.
Après 2 semaines, on peut sortir sans que personne sache qu'on a subi une chirurgie du nez parce que la plupart de l'enflure puis les bleus sont partis, mais ce n'est pas le résultat final.
Le résultat final, c'est combien de temps environ?
Un an. Ça ne veut pas dire que vous êtes visiblement enflé pour un an, mais des petits changements avec chaque mois.
Okay.
Alors, pour voir vraiment le raffinement final. Particulièrement pour le bout du nez,
il
faut attendre un an, puis des fois un petit peu plus long.
Ah.
C'est pour ça, si jamais il faut faire une retouche, on attend un an, parce qu'on veut voir le résultat final avant de décider de faire une petite retouche ou non.
Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous devez préparer les patientes aussi qui pensent qu'ils vont avoir leur résultat final en enlevant le
plâtre?
Oui, le plâtre ou les autocollants. Tu sais, des fois, ça peut être difficile de gérer les attentes ou...
Oui, toutes les patientes le savent avant la chirurgie.
OK.
Ils savent que...
Il y a toutes les étapes.
On enlève puis on reinforce juste avant d'enlever la passe, c'est pas le résultat final, parce qu'il y a beaucoup d'enflure puis beaucoup de bleu une semaine. Le plâtre, on enlève une semaine. Alors, les patientes sont mentalement prêtes, Mais de temps en temps, c'est difficile aussi. Enfin, psychologiquement, de voir un changement dans le visage, ça peut être un petit peu émotionnel. Puis,
c'est sûr.
Il faut juste gérer cette partie puis bien entourer la patiente.
Mais surtout, comme tu sais, dans ton cas, ce que tu nous racontais, comment tu avais ta relation avec ton nez avant, ça doit être un relâchement, un soulagement.
Complètement ça. Moi, ça a changé ma vie.
Ouais.
Ça a changé littéralement ma vie, ma confiance en moi. J'ai envoyé énormément de patientes aussi qui me parlaient sur la chaise, qui étaient comme « Ah, mon Dieu, j'ai tellement un complexe. » Je suis comme « Mais si c'est vraiment pas vivable, fais-le. » Dans le sens que je pense que la chirurgie, c'est extrêmement personnel, puis jamais je vais en faire la promotion sur les réseaux, dans le sens où je pense que c'est pas à quelqu'un d'autre de nous dire qu'on devrait changer quoi que ce soit. Puis je trouve que, surtout en ce moment, en ayant une petite audience de jeunes filles, je trouve ça délicat des fois de voir certaines choses sur les réseaux. Mais pour ça, si j'ai la chance de partager mon histoire puis de dire à quel point, moi, ça m'a fait du bien puis ça a été une belle expérience, puis que ça a pas été, tu sais, je l'ai fait pour moi puis je m'en foutais vraiment de ce que les autres allaient dire. Et je pense que ça, ben, ça change tout le processus. Tu sais, il y en a qui me disent « Ah, oh, je referais mon nez, mais je suis pas sûre. » Je dis « Mais fais-le pas. »
Ouais.
T'es pas sûre.
Faut que tu le sentes.
Ben oui, là. Dans le sens, c'est important, là. Tu sais, puis donc, toutes les étapes pas le fun, moi, je veux dire, je m'en foutais, là. J'étais en mode…
C'était salvateur.
Ah, ben oui, ben oui. Tu sais, je suis sortie, ma mère est venue me chercher, j'étais en chaise roulante, puis j'étais comme « Je suis tellement belle! » Tu sais, j'avais mon plâtre, non, mais comme, je me trouvais belle, là. J'étais vraiment pas belle, mais je me trouvais donc belle.
Mais c'est pas tout le monde qui est prête comme vous.
Non.
Ouais, souvent, je vois une patiente qui n'est pas sûre, puis je vais leur dire honnêtement… Attendez, faites le pas. Parce qu'on ne peut pas retourner au nez d'avant. Une fois c'est fait, c'est fait. Donc, il faut vraiment être 100% sûr. S'il y a une petite crainte, on n'est pas sûr, je dis attends.
Mais oui.
C'est vraiment important de savoir. Puis, une rhinoplastie, ce n'est pas pour tout le monde.
Non, absolument, absolument.
Alors, des fois, je dis, oh, votre nez est beau, changez le pas.
C'est ça, parce que tu aurais pu me le dire. Ah, ben non, je pense que ce n'est pas nécessaire. On pourrait faire ça à la place si c'est ça qui te dérange vraiment, je pense.
Mais je savais que quand la patiente est motivée, puis je pense qu'ils ont des attentes réalistes, puis je pense que je suis capable de donner le résultat que la patiente veut, c'est là que je recommande, oui, on peut le faire.
Ça doit tellement être satisfaisant aussi de savoir que vous pouvez faire cette différence-là quand la personne sait exactement ce qu'elle veut, qu'elle comprend les limites, mais qu'elle sait que ça peut changer sa vie, ça peut changer cette chose-là qui la dérange. Ça doit être tellement... le fun de savoir qu'on a ce pouvoir-là, tu sais.
Oui, pour moi, c'est la partie de mon métier que j'aime le plus.
C'est,
de voir les patientes qui sont vraiment contentes, qui me disent « Oh, vous avez changé ma vie. »
Ben, comme elle est juste là.
Littéralement. Littéralement.
Raconte-moi un peu ta relation avec ton nez maintenant, 6 ans plus tard.
Oui.
Comment ça se passe, toi et ton père?
Ça se passe bien, là. Je vis ma best life.
Ouais.
Non, ça se passe très bien. Par contre, je suis vraiment contente d'avoir attendu d'être adulte pour le faire. Je pense que ça me fait apprécier davantage aussi mon nouveau nez.
Ouais. Les bonnes blagues.
Les bonnes blagues. Donc, je suis vraiment contente. Puis, je pense que à la seconde où je l'ai revu, ben que je l'ai vu sans le plâtre, j'étais comme OK, c'est parfait, c'est ça.
C'est ça que tu voulais.
C'est ça. Je veux dire, je l'aimais tellement pas que je m'en foutais, je pense. Tant que j'avais.
C'était l'esprit que tu voulais, là, dans le fond.
Exact. Ouais. Donc, ça s'est super bien passé, puis je suis vraiment, vraiment super contente. Puis je me fais, à chaque fois que je nomme que j'ai eu une rhinoplastie, les gens, ils sont comme ah, j'aurais jamais pu dire. Puis ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse me dire.
Parce que ton nez, il fonctionne tellement bien dans ton visage.
Mais c'est de sa faute.
Mais c'est ça. C'est grâce à lui.
C'est grâce à lui.
Ouais.
Ouais. Fait que c'est. Puis je suis vraiment contente parce que un an plus tard, on avait un examen dans le fond de suivi. Puis moi, j'étais contente parce que comme je répète depuis tantôt, je l'aimais tellement pas que j'étais juste très satisfaite du résultat.
Ouais.
Puis quand il m'a dit, oh, ben on pourrait l'agencer encore mieux à ton visage. Puis l'affiner, puis là, j'étais encore plus contente. J'étais comme, ah, bon, ben, OK.
Wow.
OK. Fait qu'on a eu la chance de retravailler ensemble.
Oui, il y a une chance, puis je dis à toutes les patientes, c'est pendant la première consulte qu'il y a à peu près 5% de chance qu'il va falloir faire une retouche.
Oui, c'est ça arrive
à la fin d'un an. Alors, puis les patientes vont dire, oh, c'est presque rien, 5%, c'est tellement petit. Mais c'est 1 en 20. Alors, ça arrive. Puis, alors, il faut attendre, comme j'ai dit, un an. pour faire la retouche, mais il faut le faire de temps en temps.
OK.
Puis ça a tout fait la différence.
Ah ouais?
Pour vrai, oui. C'était parce que là, on n'a pas cassé l'os la deuxième fois.
Non.
Donc, c'était vraiment moins douloureux. C'était vraiment moins de temps de convalescence aussi. Je me souviens de même pas avoir pris d'antidouleur.
Oui, c'est beaucoup plus mineur. Comme chirurgie, c'est moins invasif.
C'est l'image, j'imagine? Ou...
Dépendant du corps, des fois, il faut juste enlever un petit morceau de cartilage.
Okay.
C'est moins invasif puis beaucoup plus petit comme chirurgie que la première.
OK. Mm-hmm. Puis à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de coût quand on pense à une rhinoplastie?
Vraiment, ça dépend de la patiente. Okay. Mais une chirurgie... du nez fermé, mm-hmm. ça peut commencer à 8 000, 9 000, puis ça peut aller avec une ouverte avec des greffes de cartilage, puis des cas plus complexes jusqu'à peu près 13 ou un petit peu plus.
OK. Puis la retouche, est-ce que c'est inclus là-dedans ou c'est un autre coup après?
C'est un autre coup, okay. puis les patients le savent avant, mm-hmm. mais c'est beaucoup, beaucoup moins que la chirurgie initiale.
Okay.
Oui.
Puis toi, mettons, à 21 ans, comment, je ne sais pas si t'es à l'aise d'en parler,
ben oui,
comment t'as abordé ça, cette dépense-là?
En fait, mes parents, ils m'avaient proposé de m'aider.
OK.
Puis je pense que je me souviens que c'était comme, je venais d'emménager à Montréal, je me sentais vraiment comme libre. Puis j'étais comme, non, je pense que j'ai envie de le payer, puis de que ce soit moi qui s'offre ce cadeau-là. Puis... Donc, à l'époque, j'étais une YouTubeuse.
Ah! Wow!
Oui. Complètement OG, YouTubeuse.
Ouais.
Et j'avais fait un contrat, puis j'avais tout mis, cet argent-là, sur la rhinoplastie.
Wow!
Ouais.
Génial!
Donc, c'est comme ça que j'avais payé mon cadeau.
Bien, merci beaucoup à vous deux. C'était tellement intéressant. J'ai appris plein de choses. Puis je trouve ça encore... Quel beau
c'est
hasard
drôle.
Que ce soit Dr. Schwartz qui a fait ton nez.
Oui.
Puis tu sois aussi contente.
Bien, puis pour vrai, je veux dire, je sais pas si on te dit « Ah, j'ai eu des références. » Moi, j'envoie tout le monde.
Oui.
Vraiment tout le monde.
Merci.
Continuez.
Mais c'est le meilleur gage, je pense, de qualité, le meilleur gage de reconnaissance, d'avoir des clientes qui réfèrent d'autres patientes. Là.
Ben oui.
Ouais.
Vraiment.
Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
Passez une belle journée.
Vous aussi.
Merci. Ouais, merci à vous.
Merci.
Ouais.
Merci.